RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La discussion et le débat, c'est avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Au 32-16, bien sûr, vous prenez la parole et si vous avez raté l'émission, vous avez les podcasts à votre disposition. Podcast, c'est l'émission en intégrale elle-même et puis après les petites histoires que peuvent raconter les GG pendant la pub. Charles Consigny, Joël Dagosséry, Didier Giraud, voilà le trio de GG. Troisième heure des grandes gueules au cours de laquelle nous allons parler de la sécheresse. Ça va être le retour de la... de la grosse chaleur avec la sécheresse. Est-ce que ça peut nous gâcher l'été? Ça va de nouveau être une semaine compliquée. Alors, je regarde, me tourne vers l'agriculteur qui souffle, Didier. Mais c'est compliqué aussi pour nos nerfs, quoi, physiquement, quand on est en ville. C'est ce qu'on appelle le stress. Le stress, physiquement, Didier,
on dort, bien sûr. On dort pas bien.
On en parlera à midi moins 20, à 11h20. Édouard Philippe, est-ce que vous y croyez? Édouard Philippe, il a lancé sa campagne, ça y est, c'était son grand meeting. Il veut le remettre de l'ordre dans les affaires de la France. Croire en nous, c'est son slogan, mais est-ce que vous croyez en Édouard Philippe? Ça, c'est toute la question et c'est à 11h20. En attendant, on va revenir un peu sur ce qui se passe au nord de Paris, du côté du canal Saint-Martin.
12 mois par an, je suis au vent vert, au bord du canal Saint-Martin. Je regarde passer les amants et les pigeons main dans la main. De la fenêtre de ma chambre, je compte les touristes sur les bateaux. J'oublie une heure que je vis autant au bord du gouffre qu'au bord de l'eau.
Canal Saint-Martin, ces titres de la chanson sont les Fatal Picards. Si je me souviens bien, ils avaient représenté la France à l'Eurovision, mais personne ne se souvient de leur classement. Le canal Saint-Martin, c'est devenu le dernier endroit où l'on va plonger, où l'on va se baigner. Sauf que, attention si vous sautez, de ne pas tomber nez à nez avec un cadavre.
Oui, alors on en a beaucoup parlé la semaine dernière avec la présence du petit Hamza qui sème la terreur canal Saint-Martin à Paris, puisqu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de jeunes qui s'y retrouvent. Une partie du canal est ouverte à la baignade. Et là, on vient de découvrir carrément un corps qui a été repêché samedi vers 7h du matin au niveau du 65 quai de Valmy, c'est ce qu'a dit le parquet de Paris. Il s'agit d'un homme âgé d'environ 25 à 35 ans. Il était très gonflé, ce qui laisse à penser qu'il était resté plusieurs jours dans l'eau avant de faire remonter le corps. Aucun papier d'identité n'a été retrouvé sur lui. Donc il y a une enquête qui a été ouverte pour déterminer son identité et les circonstances de son décès. On avait déjà eu un mort le 26 juin dernier. Un homme s'était déjà noyé dans le canal alors qu'il se baignait en dehors de la zone surveillée. Donc en fait, tu te baignes dans le canal Saint-Martin, t'es pas à l'abri de tomber sur un cadavre. Est-ce que ça donne toujours envie?
32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Charles Consigny.
Ah, c'est sûr que c'est paragoûtant de se dire qu'on se baigne dans une eau où, dans laquelle sommeille un corps. Néanmoins, s'il y a...
On va aller te baigner piquer une tête canal Saint-Martin, franchement.
Non, certainement pas. Mais moi-même, les piscines municipales, si je n'y vais pas. Et la mer, je trouve la mer souvent trop froide. Donc voilà, c'est... Ouais.
Mais... Le lac de Vouglan.
Ça, je peux.
Voilà. Ah bah c'est bien plus froid que la mer.
Il y a peut-être des cadavres, d'ailleurs. Je pense que les nombreux agents de la mairie de Paris a suffisamment de moyens pour contrôler quand même ce qui se passe un peu dans ce canal. Et j'ai quand même trouvé les images plutôt sympathiques pendant les canicules de ces derniers jours de tous ces gens, plutôt des jeunes, qui se baignaient dans le canal Saint-Martin. Je trouve que c'est quand même plutôt sympa. Voilà. Non, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est plutôt sympa.
Je trouve que c'est quand même plutôt sympa.
Il ne faut pas interdire de se baigner canal Saint-Martin.
Ah non, bah non.
Didier Giraud.
Il faut arrêter de tout interdire.
Non, mais je suis un peu d'accord avec Charles. Par contre, quand je vois les images et que je vois les centaines de dizaines de, peut-être de milliers de personnes qui sautent des ponts, je pense que des accidents de noyade, il y en aura encore cette semaine. Et puis voilà, quoi. C'est la vie. Si tu veux, je te dise, moi, si des gens entassés comme ça.
C'est pas la noyade, c'est ce que tu trouves à l'intérieur du canal Saint-Martin.
Après, c'est peut-être quelqu'un qui s'est noyé.
À mon avis, si on devait draguer le canal Saint-Martin, on aurait des surprises.
Ah bah, quoi, dans le fond, tu veux dire.
Vélo, ça, c'est, peut-être c'est, des cadavres qui remontent à quelques années encore.
C'est quand même tout, toutes les zones urbaines, quoi. Enfin, que les rivières, les fleuves, les canaux soient dégueulasses en ville, ça c'est une constante, c'est partout. Après, derrière ça, soit interdit, soit autorise les gens à se baigner avec le temps qu'ils annoncent qu'il y a encore un espace un peu ouvert où les gens peuvent aller librement se baigner, c'est une chose. Le fait que ça soit hyper concentré pour avoir de la surveillance, à mon avis, c'est un problème, quoi. S'ils avaient ouvert tout le canal Saint-Martin de façon libre, ça déconcentrerait la population. Après, ça empêchera pas les caddies et les bagnoles plus, dans le fond, quoi.
Surtout qu'en
voilà.
Plus, on se souvient, toi, la semaine dernière, outre l'histoire du petit Hamza, l'ado, là. On avait vu aussi cet agent de la propreté, tu te souviens, de la ville de Paris qui passe avec sa souffleuse.
Et qui balançait tout dans le canal.
Balançait les déchets dans le canal Saint-Martin. Alors on nous a dit, non, mais c'est un cas individuel. Sauf que là, il s'est fait gauler. Tu sais pas depuis combien de temps, peut-être, il balançait toutes les saletés dans le canal Saint-Martin.
Je te rappelle la polémique sur les JO de Paris et le fait qu'on puisse se baigner dans la Seine. Tout le cirque qu'on a fait avec Anne Hidalgo et sa combinaison dans la Seine. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va se baigner dans la Seine, quoi.
Et là, le canal Saint-Martin.
Qui va se baigner dans la Seine?
C'est complètement indépendant de la Seine, le canal Saint-Martin.
C'est pour te dire, oui, bien sûr. Parle de la propreté et tout ça. Il y a un moment donné.
Non, mais il y a des années.
Si on veut, on les fait, les efforts, quoi. Voilà.
Il y a des années qui sont faites.
Bah oui.
Qui a priori, il n'y a pas de problème. On peut se baigner. Mais c'est toujours la difficulté de se baigner dans une ville où, très dense comme Paris. On sait qu'il y a effectivement des gens qui jettent un peu n'importe
les
quoi.
Voilà.
Et on jette un peu n'importe quoi dans ce canal. Il y a des rats. J'ai vu aussi qu'ils avaient vu, il y avait des rats. Bon, des rats, il y en a partout dans Paris, dans n'importe quel square. Moi qui me vais dans les squares avec mon fils, il y a des rats partout. C'est parce qu'on m'attend, on les tue.
On va faire des squares no kids.
Non, mais
nos rats.
Ça serait bien
non,
de faire
mais
des,
le problème, non, c'est le raticide.
Ça serait mieux de faire des squares no rats. Mais les rats sont devenus, le surmulot est devenu une espèce à protéger à Paris. Les écologistes nous expliquent qu'il ne faut surtout pas tuer les surmulots, c'est très important.
Ce Béliard.
Donc on est envahi par les rats.
On rappelle.
Il y en a aussi dans le canal Saint-Martin, mais bon, voilà, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein,
Joël Dagosséry, est-ce que tu irais te baigner dans le canal Saint-Martin? On te repose la question.
C'est dégoulasse. J'y tremperais même pas le petit orteil, à vrai dire.
Tu t'assierais pas là, comme ces jeunes
même
qui l'ont autour de nous.
Là, non,
juste
parce que même les abords,
les pour te rafraîchir.
Non, je trouve que même les abords sont toujours un peu dégoulasses, avec les bouteilles de machin, etc. Enfin, après c'est très jeune et je suis comme Charles. Moi j'aime
on
bien
a
voir
passé
ces.
L'âge, on est j'aime, trop vieux autour.
Voilà,
de
j'aime bien voir les images d'une jeunesse qui s'amuse.
On aurait 15 ans, on irait.
On est des boomers.
J'ai pas voté pour Monsieur Grégoire, mais je suis ravie de cette mesure qu'il a prise.
Tu trouves c'est bien?
Ouais, je trouve ça bien. Je trouve que, en fait, qu'il fasse une ville vivante. Voilà, pas une ville musée. Avec, il y a de la jeunesse dans Paris. Il y a des gens qui s'amusent, qui profitent de l'été.
Non,
je trouve que ces images sont hyper festives, joyeuses. Donc vraiment, félicitations à lui. Et
donc,
en plus, avec la canicule. Ah ouais. Et puis de toute façon, puis,
globalement,
corps,
ceux qui sautent du pont, ils s'en foutent qu'il y ait des cadavres ou des bagnoles.
Moi, je trouve ça plutôt marrant.
Moi, je trouve ça marrant. Mais bien sûr.
Ah, sauf s'il y a des cadavres, quand même. Pardon.
Non, mais un corps dans un cours d'eau, c'est pas.
Connais-toi les rives et qu'il n'y ait plus des petits Hamza. Ça, je trouve que ça serait bien.
Oui, oui, mais même Hamza, c'est un épiphénomène comparé à tout. Non, c'est pas que je l'aime bien.
L'adopter.
Je le connais pas, ce petit Hamza. Il m'a pas l'air quelqu'un que j'aimerais adopter. Mais c'est encore un qui risque pas de faire une retraite. Ah, voyons voir comment il évolue, il est jeune.
Ouais, mais encore.
Il peut devenir influenceur et devenir très riche.
Oui, c'est vrai aussi.
Là,
mais en fait, un corps qu'on retrouve dans un cours d'eau, pour moi, c'est basique, c'est classique. Il doit en avoir une dizaine d'autres. Quand on regarde les séries, c'est le premier endroit où on va jeter des corps à la mer, dans un lac, dans un machin. Donc, bon, on a retrouvé un corps, mais pas de raison d'interdire, franchement, que les jeunes vivent, que Paris vive.
Non, mais c'est
voilà,
vrai,
mais Joël, tu l'as dit, je vais rejoindre Joël. Ça pollue moins qu'une bagnole. C'est biologique.
Je suis très heureusement surpris que la mairie liberticide de Paris autorise la baignade. Je trouve que c'est remarquable.
Ouais,
je m'attendais à ce qu'ils soient cons jusqu'au bout.
Bah, ils ont dépensé beaucoup d'argent quand même.
Ils interdisent la baignade.
Ça a coûté plus d'un milliard.
Oui, mais regarde, dans la Seine, c'est re-interdit.
Bah, la Seine, c'était éphémère. Ça a coûté un milliard,
mais en plus,
c'était éphémère.
Ça ouvre cette semaine, ça sera autorisé, ça a coûté plus d'un milliard. Après, c'est des choix budgétaires. On n'a pas mis un milliard dans le périscolaire, mais bon, voilà. Après, c'est des choix. Non, moi, je pense que
aujourd'hui, moi, je suis assez d'accord avec Joël. On peut se baigner dans la Seine aujourd'hui.
Mais moi, sincèrement, le côté, on n'a pas besoin d'une mairie pour faire la fête. Si tu veux, le côté tout le festif, c'est important, c'est le.
Non, mais comment ils interdisent
la mairie de Paris? La mairie de Paris est beaucoup sur la festif. Et on a inventé plein de choses, Paris plage, nuit blanche, etc. Il y a des sujets de préoccupation majeure qu'ont les Parisiens. Je pense au périscolaire notamment, à l'accueil des familles et autres. Le problème des loyers et autres. Et là, il y a quand même c'est bon.
Non, mais là,
c'est des choix. C'est
non, mais là, n'empêche pas l'autre. Rien, a priori. Je veux dire, là,
si, parce qu'il faut il fallait rendre propre le canal Saint-Martin.
Oui, mais ça c'est bien. Il l'est fait quand même.
Non, mais c'est surtout qu'il y a des zones surveillées.
Ça a été fait.
Non, mais Charles, il y a des zones surveillées. Ça veut dire qu'il paie des agents.
C'est de l'argent, oui.
Il paie des agents.
Je critiquerais si la baignade était interdite et si la mairie ne faisait pas en sorte qu'elle soit possible. Je trouve ça une bonne chose, oui, qu'elle ait fait en sorte que ce soit possible et qu'elle autorise ça.
En plus, avec les chaleurs, avec les logements qui sont pas équipés.
On parle quand même de tes impôts.
Oui, mais Didier, c'est la même mairie qui autorise la baignade, mais qui est contre la climatisation. J'écoutais encore ce week-end Emmanuel Grégoire, on lui demandait est-ce qu'il faut climatiser l'appartement parisien. Ah non, surtout pas. Bah, c'est complètement débile parce que on sera tous climatisés dans 30 ou 40 ans s'il fait 50 degrés à Paris, sinon on va tous mourir.
On sera plus à Paris,
ou alors Grégoire sera le maire d'une ville morte.
On sera
donc
plus
en
à
fait, il y a des sujets fondamentaux qui sont balayé par idéologie en disant mais non, et en revanche,
la capitale de la France sera déplacée au Havre.
Bah, excuse-moi, la France après moderne, c'est pas la France qui se baigne dans le canal Saint-Martin. La France moderne, c'est la France qui protège tout le monde.
Oui, mais t'es rabat-joie.
Trop à droite, Olivier.
Non, je suis pas rabat-joie. Vous faites avoir, en fait. Le côté festif, ça amuse le peuple, c'est le pain et les jeux.
Non, ça fait pas qu'amuser le peuple.
Mais là, Olivier, pardon de te dire que tu réfléchis un peu comme un retraité niçois.
Oui.
J'ai peur que tu avances un petit peu. Alain lui-même n'est pas sur cette ligne parce qu'Alain garde sa jeunesse.
Mais non, mais j'aurais 15 ans, j'irais me balader au Jardin.
Alain est quelqu'un qui mystérieusement a gardé sa jeunesse dans le temps. Toi, là, Olivier, tu préfères la clim à la baignade des jeunes, ouais, etc. Tu attention, tu glisses vers le niçoisisme.
Vous faites avoir en fait.
Et pas du tout.
Votre attention est détournée sur des choses festives et sympathiques. Mais les vrais problèmes sont pas
de toute façon, je te dis, c'est au Havre que nous allons installer la capitale de la France.
Oui, c'est vrai.
Et ainsi, il n'y aura plus de problème de géodule. Car au Havre, il ne fait jamais beau.
Pendant des années, Paris s'est transformé en ville musée, que ça dormait un peu, etc. Et d'ailleurs, j'allais souvent à Londres, vous le savez, je trouvais que c'était très dynamique, assez festif, original. Et là, depuis quelques temps, Paris redevient une ville ouverte, dynamique, avec des choses.
C'est vrai que le petit Hamza et les 200 qui sont
arrêtez avec Hamza, il n'y a pas que lui. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de jeunes. Là, il n'y a pas qu'Hamza qui est au canal Saint-Martin. Donc, non, je trouve vraiment le maire, félicitations. Je suis contente de son action.
Après, ce qu'il faut voir, c'est si ça devient un endroit qui est viable pour les riverains. Or, si tu veux, même si là, il y a l'épisode de canicule, les riverains commence à en avoir un peu ras-le-bol, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu l'endroit où
ils habitent dans une piscine.
Où il faut venir déconner, où il faut rester tard le soir, où il faut venir faire la fête,
etc. Ça va durer 2 mois.
Le problème, on en revient presque à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'espace No Kids, c'est un problème de, c'est toute la question de respect.
Dans le wagon où il y a des sales gosses, quoi.
Voilà. La question de respect, c'est-à-dire que si tu viens plonger jusqu'à, je sais pas, 22h, 23h, au bout d'un moment, les gens vont dire, d'accord, ça apporte de la vie.
Moi, je vis par procuration.
Non, mais la vie, c'est aussi le respect de la vie, c'est pas la zone de l'endroit.
Je vais plus en boîte, tout ça. Donc, par exemple, quand en bas de la fête, il y a des gens qui passent avec la voiture et la musique à fond.
Personne qui t'interdit d'aller en boîte.
Je suis contente, j'ai la musique qui vient dans ma chambre pendant que je suis couchée à 21h30.
Coucher à 21h30.
Bah oui, parce que je fais attention à mon sommeil, à mes heures de sommeil, je vieillis.
Oui, mais tu vois, c'est ça qui est bizarre,
que je fais la peau jeune et tout, c'est grâce au sommeil.
On est obligé d'imposer ce qu'on fait.
Puis des règles. Non, mais vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez?
Parce que
vous voulez,
personne ne respecte.
Vous voulez une ville endormie avec juste des bérets, des baguettes sous le bras?
Entre une ville endormie, une zone de non-droit, il y a quand même.
Mais c'est pas une zone de non-droit, c'est une zone où les jeunes se baignent et les gens, les riverains, pendant 2 mois, ils auront des jeunes en bas de leur fenêtre, qui s'amusent, ils pourront se mettre à la fenêtre et regarder la vie. Oui, il y a de la vie. Waouh! Incroyable.
Ouais. Faut-il interdire la baignade au canal Saint-Martin? Juste voir ce que vous en pensez. Petite question d'humeur, oui ou non. Ah ben vous mettez oui à 77%. Au moins c'est réglé. Dans un instant.
Il y a que des retraités niçois.
Dans un instant. Édouard Philippe, vous y croyez? Édouard Philippe veut remettre de l'ordre dans les affaires de la France, faire de l'intérêt de nos enfants la boussole du prochain quinquennat. Son slogan: croire en nous. Est-ce que vous croyez en Édouard Philippe? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules. Il est 11h15.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Avant de parler politique et parler d'Edouard Philippe, on va accueillir Harmonie qui nous appelle des Hauts-de-Seine, de Neuilly-sur-Seine. Bonjour Harmonie.
Bonjour.
Harmonie, c'est vous qui avez été tiré au sort, qui gagnez les vacances Mélambra.
Ah, vous avez égayé ma journée, j'étais justement en train de me dire, j'ai pas réservé encore les vacances, je suis nulle, où est-ce que je vais emmener mon fils en vacances?
Eh bien écoutez, vous allez choisir. Séjour à la mer, séjour à la montagne, séjour à la campagne. C'est un tout premium Bellambra qui s'occupe des enfants, les activités, les repas. Vous aurez juste à vous allonger où vous voulez, vous reposer, faire votre sieste, lire les livres, écouter de la musique. Vous allez choisir ça. On va vous expliquer la suite. Vous allez vous mettre d'accord avec Bellambra. Voilà, Harmonie. Vive les vacances.
Merci beaucoup. Je vous écoute tous les matins avant de partir sur mes chantiers.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis conductrice de travaux dans un grand groupe de chantiers qui fait de la réhabilitation.
Eh bien, écoutez, bravo, bonnes vacances, profitez bien, merci de la.
Merci, merci. Mais
je vous en prie. On vous embrasse, Harmonie. Merci. Bonne fidélité au GG.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Et demain, vous gagnerez encore toute la semaine. On vous fait gagner dans les grandes gueules vos séjours à la mer, à la montagne ou à la campagne. Édouard Philippe, parlons-en. C'est le coup d'envoi de sa campagne électorale. Remettre de l'ordre dans les affaires de la France. Avec un slogan, croire en nous. Mais est-ce que vous y croyez en Édouard Philippe? 32-16 pour le dire au GG.
Était-il 2000, 3000, 4000, 5000? J'ai vu qu'il y avait eu des polémiques sur les réseaux sociaux. En tout cas, l'Adidas Arena n'était pas pleine. Mais bon, peu importe pour Édouard Philippe. Il fallait marquer le coup, lancer la campagne. Alors c'est assez intéressant parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a dit à un moment donné, nous prendrons le pouvoir. Alors les macronistes, ils sont au pouvoir depuis 10 ans. Ça m'a fait sourire. Mais j'ai compris la stratégie, c'est-à-dire qu'il veut faire oublier qu'il est macroniste, qu'il a été macroniste, il ne l'est plus. Il doit à la fois conjurer le sort qui a été réservé à Alain Juppé. Donc il n'est pas juppéiste, il n'est plus macroniste, il est philippiste. Édouard Philippe qui a un slogan, croire en nous, et qui veut démontrer qu'il est le meilleur candidat pour éviter Jean-Luc Mélenchon ou Jordan Bardella. Est-ce que vous y croyez, vous,
Joël?
Quand j'ai entendu « nous allons prendre le pouvoir », je me suis dit « mais on est des poissons rouges, nous, ou quoi ?» Il nous prend pour des poissons rouges, on n'a pas de mémoire. On a oublié qu'en fait, le pouvoir, c'était lui pendant longtemps. Il a déjà eu le pouvoir, Édouard Philippe. Il va pas prendre le pouvoir, il a déjà eu le pouvoir. Et en plus, il veut remettre de l'ordre là où il a foutu le désordre. C'est un truc de ouf qu'il nous propose, là. Je te jure, mais ils nous prennent vraiment pour... pour des sortes de bébés amnésiques, c'est-à-dire on est né là en 2026 et on découvre Édouard Philippe. Non, on le connaît. Édouard Philippe, c'était notre premier ministre, c'était les gilets jaunes, c'est le quoi qu'il en coûte, les milliards d'euros de dettes en plus. Donc Édouard Philippe, il a un bilan. Je veux dire, il vient pas tout neuf en train de nous dire je suis l'opposant, parce qu'en fait là c'est quoi? Il nous dit qu'il est l'opposant politique, en
alors
fait.
Qu'il est soutenu alors par que... de nombreux cas de la Macronie.
Mais c'est le complice.
Des ministres.
Je veux dire, un complice dans une affaire, il est sanctionné, peut-être pas à hauteur du coupable, mais néanmoins, il est quand même sanctionné. Là, il vient de dire que lui, il est un opposant politique. Ben non, non. Moi, je veux bien qu'il nous raconte des
faribondes. Mais fort de son expérience, il fera mieux, mais, Joël.
Non, je n'y crois pas. Non, ben je n'y crois pas parce qu'en fait, je l'ai écouté. Et il nous propose des efforts. Alors, je sais qu'on doit en faire, d'accord, mais je vois pas très... La contrepartie n'est pas très claire.
Non.
Donc, il nous dit, il faut travailler plus. OK, partons dessus. Mais j'entends pas la contrepartie. Je suis pas sûre qu'on soit vraiment sur une réduction...
C'est-à-dire, tu ne crois pas
à son... du périmètre de l'État.
En français,
non.
Tu ne crois pas à l'école.
Non, c'est l'emplan. c'est un gestionnaire de syndic. C'est du tout, c'est
pas. Plan.
D'accord. Oui, c'est ça. C'est, on vient en copropriété, il te dit, ah tiens,
donc ce sera de la continuité de ce qui se passe en ce moment.
On va augmenter les charges. Quoi, mais oui, il veut juste augmenter les charges. Il veut pas casser l'immeuble et nous faire quelque chose de
là. Moi, alors déjà sur, je suis complètement en raccord avec Joël sur la forme. Je trouve que ce mec-là manque un peu d'entrain pour être président de la République. Tu sens pas la force que personne ne peut arrêter pour aller jusqu'à l'Élysée. Et je trouve du coup qu'il souffre de la concurrence avec son concurrent le plus direct, qui est Attal, qui lui, à mon avis, est dans un vrai dynamisme. Mais sur les deux, mais moi j'en peux plus. J'en peux plus de ces anciens premiers ministres qui viennent nous expliquer comment ils incarnent la rupture, quoi. Les mecs, ils ont été premiers ministres aux manettes, et dans la longue litanie que lui reproche Joël dans son bilan, je rajouterai quand même aussi les mensonges. Parce que c'est son gouvernement, les mensonges.
Quel mensonge ?
Il n'y a pas masques, besoin de masques, après mettez des masques, il n'y a pas besoin de vaccins, après mettez des vaccins, tout ça parce qu'on n'avait pas, parce que l'État, c'était l'État du tiers-monde, voilà, et tous ces mensonges-là, les gilets jaunes et tout ça, pour moi, ça fait un bilan que...
Alors comment expliquer sa popularité?
Quand tu viens présenter en disant, j'incarne la rupture, mais alors,
comment expliquer qu'aujourd'hui, quand même... Objectivement, c'est le mieux placé dans ce bloc central.
Mais pour parce que sinon, c'est la peste à droite et le choléra à gauche.
Je parle dans le bloc central. Tout. Je parle pas des autres. Pourquoi c'est le mieux placé aujourd'hui?
C'est
terrible ton bilan.
Parce que les clients du bloc central, c'est les plans-plans. Enfin, elle l'a dit, Joël, c'est le candidat du plan-plan. C'est les candidats du bloc central.
Non, mais Charles, est-ce que tu regardais un peu le meeting?
Oui, j'ai regardé un petit peu. Je pense qu'il a quand même. Dire plein de choses, mais il a quand même une espèce de dignité qui tranche quand même un petit peu avec beaucoup de candidats de ses compétiteurs qui sont très vulgaires, gros sabots, qui font que de la com, etc.
Candidat de la raison ?
Non, mais il y a quand même si vous voulez, il y a quand même une certaine tenue, je trouve. Alors on peut, c'est de la tenue à l'ennui, bien sûr, il n'y a qu'un pas, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine tenue. Sur le fond, j'étais presque un peu surpris par son discours sur son histoire de professeur, etc. L'éloge qu'il a fait de ses professeurs. On sent qu'il y a de la gauche en lui. Hein. On sent qu'il y a quand même un bon gros inconscient. Il a bien intégré le fait que la France était, par beaucoup d'aspects, un pays de gauche. Et donc, il joue là-dessus. Est-ce qu'il le fait cyniquement ou naturellement? Je ne sais pas.
Donc, ce n'est pas le grand réformateur que tu appellerais de tes
voeux. Alors voilà, moi, c'est ça. C'est-à-dire que sur le fond, si tu veux, on sent que c'est quelqu'un quand même, avant qu'on je ne sais pas comment te dire, avant qu'on change la moquette, il va falloir en passer par 10 commissions et 5 délibérations. Donc ça, c'est... Bon, voilà. Moi, si vous voulez, j'aime bien le style. Sur le fond, je trouve qu'il est trop conservateur. Je pense qu'il faut une révolution. Et ce que je trouve terrible, et alors là, c'est à lui de faire attention à ça, c'est l'entourage. Parce que, alors là, il est quand même soutenu par des gens, si vous voulez... voilà, moi je pense qu'il faut une alternance, quoi. C'est-à-dire quand on voit tous ces gens, on n'a pas envie, on les sent eux-mêmes usés jusqu'à la corde.
C'est-à-dire, c'est la continuité de ce qui de ce que vit la France en ce moment, c'est la continuité du macronisme, c'est le philippisme.
C'est un système. C'est-à-dire, là, j'étais aux rencontres économiques d'Aix il y a quelques jours, donc un événement dans lequel il y a tous les politiques, tous les patrons, plein de journalistes, tous les décideurs, tout ce qui fait le système.
Toute la France qui va bien, quoi, en fait, c'est ça.
Oui, toute la France qui va bien, toute la France qui fait système, un système.
Qui décide.
Eh ben, honnêtement, donc je les entendais tous, etc. J'ai discuté avec beaucoup, beaucoup d'entre eux. J'ai notamment discuté avec des gens tout à fait proches d'Edouard Philippe, des membres de son cabinet, des élus proches de lui, etc. Et d'ailleurs avec ceux des autres candidats du bloc central. Eh ben, ils sont pas antipathiques tous. Mais moi, ils me donnent envie de voter pour un candidat populiste, si tu veux. Parce que je pense qu'ils sont trop en système, trop déjà à se répartir les postes. Ah, un tel sera ministre, un tel sera ceci, un tel sera cela. On les voit quand même, pardon, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais certains, c'est quand même vraiment des énarques. Il y a un côté gland, quoi, quand même, pour dire les choses comme
donc
elles
sont. Un gland, tu veux dire,
c'est ça? Non, mais il y a un côté...
pas que le mot
qu'à ça. Il y a à noter une espèce d'assemblée de, de type sur deux qui sont là.
Un but.
Moi, j'ai la flemme. Moi, ça me donne envie de voter Trump. Ça me donne envie de mettre de la liberté. Oui, mais... Ça me donne envie de renverser tout ça, de remettre tout ça à l'offensive. Et ouais, là, c'est pas ce que je sens.
C'est ça qui est bizarre, c'est que
ni chez lui ni chez les autres.
Dans un pays où il y a quand même une bonne partie des électeurs qui ont envie de renverser la table encore. Hein, je pense que le dégagisme est toujours là. Le bloc central va se choisir quelqu'un qui incarne quand même le pouvoir finissant. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à trouver? Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à trouver qu'un ancien premier ministre? Mais et puis la deuxième chose, moi, il me fait penser à Édouard Balladur. Pardon. Alors là, je parlais.
Ça, c'est le côté Édouard.
Au plus ancien d'entre nous. Pas parce qu'il a le même prénom, mais parce qu'il y avait avec Balladur une certitude effectivement que c'était le camp du bien, la raison.
Mais lui, il est pas
avec
là.
Avec des si parce qu'il va être soutenu par les grands chefs d'entreprise, il va être soutenu par à peu près par la presse raisonnable.
Mais comme Macron.
Et à un moment donné, oui, mais Macron, il y avait un petit côté disruptif. Il n'y a pas du tout chez Philippe.
Macron, il avait trahi la main qu'il a nourrie.
Il avait un côté disruptif dans le sens 22, hein. Où il avait inventé le en même temps, etc. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que Édouard Philippe hier a reproché au RN d'être de l'an en même temps, alors que lui, il participe aussi à votre. Bref.
Mais oui,
c'est
mais il se marque quand
Balladur.
Même plus à droite. Il faut lui reconnaître qu'il se marque quand même plus à droite.
Oui, parce qu'il vient pas du PS comme
et
Macron.
Je suis désolé, moi. Enfin,
c'est une droite très modérée. Ah, mais ça et c'est une droite centriste.
C'est-à-dire qu'il est, en tout cas, il faut qu'il réalise qu'il laisse ouvert quand même un très gros couloir à droite. C'est-à-dire que pour l'instant, quelqu'un qui a envie d'un candidat qui fasse des vraies réformes, il trouve pas son
compte, Édouard Philippe. Imagine.
Mais je lui reconnais de la dignité, je veux quand même le dire.
La dignité, ça change des autres, Charles.
Ils sont tous
dignité.
Tellement vulgaires.
Imagine Ginette qui paye et Nicolas qui paye dans l'isoloir.
Ah bah là, ils ont.
Est-ce qu'à un moment donné, ces gens vont se reconnaître dans le ronronnement d'un ancien premier ministre qui nous fait penser à Édouard Balladur,
pépouze,
qui te raconte
Joël, la vie innovante.
Joël, non mais moi je suis
un peu pépouze.
Rejoins Charles sur ce
innovante, Joël, toi qui aimes bien l'innovation.
Non bah non.
T'as trouvé un truc.
J'ai rien trouvé d'innovant.
Exactement ce que disent les autres. On n'augmentera pas les impôts.
Exactement.
On va tous faire des efforts. Alors les retraités vont. J'ai vu quand même les retraités vont payer. Hein. Il a dit.
Il y a rien d'innovant. Je veux dire même. Si t'as envie de concurrencer des États-Unis ou de la Chine, t'as besoin d'un choc de liberté économique. Ils me proposent pas un choc de liberté économique.
Il est très étatiste.
Mais je rejoins
la continuité.
Je rejoins Charles sur le fait qu'il soit qu'il y a une sorte de dignité. Tu vois, et c'est ce qui me plaisait d'ailleurs au début d'Édouard Philippe. J'avais dit, franchement, c'est le boss, j'aime bien et tout, parce qu'il y avait une sorte de dignité un peu à l'ancienne, parce que quand tu regardes les autres, c'est vulgaire, c'est pas fini. Donc tu dis, bah, lui, ça représente un peu ce qu'on imagine d'être une sorte de chef d'État, etc. Sauf que là, ça ronronne tellement que je veux bien une sorte de dignité, mais ça devient très tiède. Même son entourage, il est très tiède, il n'y a rien, il n'y a pas de machine.
L'entourage est terrible.
Il n'y a pas de machine derrière, il n'y a rien.
Parce qu'il se dit, pour être président, il va falloir que les électeurs de gauche votent pour moi à un moment donné, si je me trouve face à Bardella.
Oui,
donc il est déjà dans un discours un peu tiédasse, où il ne faut choquer personne. Donc il n'y a pas de.
Il a
dit hier, ne choquera pas un électeur bontain de la gauche, qui dira, bon, mais finalement, il est sérieux, etc. Voilà, je ne veux pas augmenter les impôts, mais il faut quand même un peu y contribuer. Ouais, donc les retraités, peut-être.
Mais moi, par exemple, je vais vous dire, moi, ce qui me chiffonne, c'est que quelqu'un qui dit qu'il ne va pas augmenter les impôts et qui n'arrête pas de nous dire depuis plusieurs semaines que sa grande question et sa grande inquiétude, c'est comment est-ce qu'on finance notre modèle social.
Voilà.
Moi, je suis pas là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, il faut réformer le modèle social et les impôts doivent être baissés. Mais ça, c'est marrant, comme on a l'impression que c'est l'Himalaya pour les candidats.
Mais ça, là, il est sur l'école.
Pourquoi
c'était l'axe essentiel de son discours.
Pourquoi
c'était
la réforme de l'école. Oui, mais je l'ai pas entendu dire qu'il allait augmenter le temps de travail des professeurs. Or, je salue nos amis professeurs.
Pardon, mais
je
sur
pense
l'école,
qu'il faut augmenter leur temps de
qu'est-ce
travail.
Qu'est-ce qu'il a dit d'innovant sur l'école? Pardon. Ils disent que ce que tout le monde pourrait dire. Enfin, voilà. Bien sûr, il faut.
Je suis sûr que si on lui pose la question, il va dire que il n'est pas encore le temps de dévoiler les réformes. Tu vois, voilà. Là, c'était simplement son entrée en campagne. Et que ce sera au printemps prochain, enfin pas au printemps prochain, à l'automne.
Tout le monde est sur l'automne.
Tu n'es pas face à une machine à fabriquer des idées. tu es face à quelqu'un qui est raisonnable,
à recycler
et qui machine à recycler, qui est dans la continuité en fait.
Oui, mais tu vois, il a été
sur une recycleuse qui te normalement, fait croire que ton vieux c'est du neuf.
Il connaît la France de fond en comble. Il devrait avoir un programme tout prêt. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à attendre.
Il va le donner après, mais
oui,
à la rentrée. Très conservateur.
Édouard Philippe, est-ce que vous y croyez? Il dit croire en nous, Édouard Philippe. Est-ce que vous croyez en Édouard Philippe? Non, pas du tout. 92%. Voilà, au moins c'est réglé. Il vient d'entrer en campagne avec les grandes gueules, Édouard Philippe. 7,8%. Alors, ce qui est intéressant, il faudrait retenir ce 7,8%. Ce sera son score du premier tour.
Ce score-là.
Allez, pour terminer dans un instant, la sécheresse. De nouveau la chaleur, la sécheresse, les incendies, la canicule. Est-ce que ça, c'est en train de nous gâcher ce début d'été? C'est vrai qu'on morfle. 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Chez les grandes gueules sur RMC, RMC Story, on a des petits soucis avec au standard, pardon. Vous aviez appelé là pour les sujets précédents, mais on a un petit problème de connexion. Donc navré encore, on est en train d'essayer de le résoudre pour les 10 dernières minutes, notamment là pour parler de la sécheresse. Est-ce qu'elle est en train de gâcher notre début d'été? Alors je dis sécheresse, canicule, effectivement, mais c'est vrai que là, ça fait 3 semaines que ça n'arrête pas. Alors il y a déjà la canicule qui met quand même à contribution notre physiologie, et puis vous avez la sécheresse aussi qui maintenant provoque les incendies, donc ça commence à faire beaucoup.
Oui, c'est dommage parce qu'on a eu un début d'année très humide, il pleuvait tout le temps, on s'en plaignait, les nappes phréatiques étaient remplies, ça c'était une bonne chose. Le problème c'est que depuis le printemps il pleut pas assez, il y a eu des vagues de chaleur exceptionnelles, celle de mai, celle qu'on a connue en juin, celle qu'on connaît actuellement. Il y a plus de 90 départements qui sont placés en vigilance ou sous restriction d'usage d'eau. Ça veut dire par exemple il faut réduire les arrosages, remplissage des piscines, irrigation à certaines heures, etc. C'est une catastrophe. L'été s'annonce quand même meurtrier pour les agriculteurs, notamment Didier. Toi par exemple, t'es éleveur, quelles sont les conséquences?
Eh ben, les conséquences, c'est que dans le courant de la semaine, le stock qui est prévu pour cet hiver, je vais l'attaquer. Ça veut dire qu'il faudra que j'achète du fourrage. Et puis, moi, je pense qu'il y a un vrai dossier pour les années à venir. C'est l'eau, quoi. Moi, j'ai des sources. Je suis plutôt indépendant sur l'eau, quoi. J'ai pas besoin de l'eau du réseau communal. Mais je constate aujourd'hui des niveaux de sources, alors que les nappes phréatiques sont pleines, qui sont proches de 2003. Alors qu'on a la confirmation que les nappes phréatiques sont pleines.
Qu'est-ce qui se passe?
Ça veut dire, l'eau de surface a disparu. Enfin, ce qu'on a vécu la semaine dernière et ce qu'on s'apprête à vivre, enfin, surtout la semaine dernière, ça correspond à mettre la végétation dans un four, quoi. Dans un four. Et à un moment donné, l'eau de surface disparaît complètement. Et je pense que ça, c'est un vrai dossier. C'est le stockage de l'eau, quoi. Et j'en peux plus de voir sur les réseaux des écolos qui donnent encore leur avis sur le sujet. Il faut qu'on dégage toute la doctrine écologie là-dessus pour pouvoir stocker de l'eau, pour pouvoir faciliter à la création de réserves collinaires. On a battu cet hiver des records de pluviométrie. On a des nappes phréatiques plutôt remplies et on nous empêche de pouvoir stocker de l'eau et de pouvoir faire à la fois de l'irrigation, à la fois donner à boire à nos bêtes, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont 200, 300 vaches et ils prennent sur le réseau d'eau potable, quoi. Et demain, dans un passé très proche, dans un futur très proche, on aura des problématiques d'eau potable pour la consommation humaine. Je vous l'annonce. Ces périodes de sécheresse intenses comme elles le sont, ça va avoir des vraies conséquences sur l'eau de boisson dans certains villages un peu reculés où tu vis sur une source. Parce que l'eau de boisson, elle vient aussi des sources. Et à un moment donné, si ça doit se répéter, si le climat est dans une évolution aussi constante que ce qu'on vit depuis 10 ans, il nous faudra stocker de l'eau. On n'a pas le choix. Et la doctrine écolo, faut la dégager parce qu'il nous faut stocker de l'eau, quoi.
Joël, inquiète de cette semaine où on va encore avoir très chaud là. Tu étais là, tu dis oh, c'est pas possible.
Ou... oui, assez inquiète, mais j'attends quand même qu'à un moment on ait une politique d'un pays développé, moderne. Voilà. Et Didier a raison, c'est-à-dire être pragmatique. Quand on a des réserves et du surplus, bah, ça, on stocke pour les jours où il y en a moins. Enfin, on le fait tous, je sais pas, dans nos familles, même l'épargne. Quand tu vois l'épargne des Français, c'est aussi ça. C'est ah bah tiens, j'ai de l'argent, je le stocke parce que on ne sait jamais s'il y a un truc.
C'est le même
voilà.
système.
Mais exactement. Donc pourquoi est-ce que pour une ressource comme l'eau, tout d'un coup, non, il faudrait la laisser s'évaporer et puis ne rien en faire, etc. Je comprends pas. Je comprends pas cette logique. Donc j'espère que après cette vague, là, c'est trop tard. Je veux dire là, ce qui va se passer cette semaine, c'est trop tard, c'est foutu.
On non, a un pays qui est pas. Il y a des endroits, faut changer. La loi, quoi.
Qui n'est pas prêt, voilà, qui n'est pas prêt. Maintenant, il ne faudrait pas que ça finisse là en septembre et qu'on oublie tout et qu'on revienne en juillet prochain et qu'on revive les mêmes scènes. Quand je suis partie dans les magasins là, la semaine dernière, tu voyais, il n'y avait plus de pack d'eau partout. Les gens, ils venaient faire la queue le matin pour avoir un pack d'eau. Les gens, ils se tapent dessus pour avoir un climatiseur. Mais ce n'est pas un pays moderne, ça. Ce n'est pas un pays où normalement il y a de l'abondance, où il y a de la vision, etc. Non, je suis désolée. Donc, on n'a pas à être tout le temps en flux tendu. C'est-à-dire qu'en France, il ne faut pas qu'il y ait un accro. S'il y a un accro, tu sens tout de suite que le système casse. Donc là, c'est trop tard, c'est foutu pour cette semaine. On va morfler comme la semaine dernière. Mais par contre, l'année prochaine, je veux voir ce qui va être mis en place, ce qui va être décidé d'ici l'année prochaine, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans.
Rien, je te le dis, il n'y aura rien.
En tout cas, tous les agriculteurs, je pense, sont assez unanimes. Sur ces histoires de retenue d'eau et de faire des provisions d'eau, ce qui paraît quand même tout bête, hein, pendant les périodes où il pleut beaucoup, énormément, parfois trop, autant essayer de garder cette eau pour les mois suivants quand il y aura de la sécheresse. Ça paraît tout con, mais les écolos sont contre parce qu'ils ciblent certaines pratiques agricoles qu'ils considèrent trop gourmandes en eau. Et ils considèrent qu'il faudrait d'abord interdire ces pratiques agricoles avant de stocker de l'eau pour les permettre. Sauf que moi, j'ai rencontré des agriculteurs qui ne font pas du tout d'agriculture intensive, qui ont un petit cheptel de bêtes, qui ont quelques champs, qui sont pas du tout dans l'agriculture de masse et qui ont quand même besoin d'avoir de l'eau pendant l'été, pendant les grandes périodes de sécheresse. Donc ça, je pense qu'effectivement, il s'agirait maintenant de le développer de manière beaucoup plus substantielle, d'être en fait de façon générale beaucoup plus prévoyant. Et j'avoue aussi un peu naïvement, mais quand même, être surpris par le fait que tous les ans, on a des feux de forêt considérables dans le sud. Tous les ans, on est surpris par l'arrivée de ces feux de forêt. Alors certes, les pompiers sont sur le pied de guerre, etc. Mais j'avoue, je me demande quand même si on pourrait pas un tout petit peu plus anticiper ce phénomène, soit en
non mais bah, c'est
j'ai
des réformes de fond.
Franchement, j'ai le sentiment, Didier, tu es peut-être plus expert que moi sur ce sujet. J'ai le sentiment que on anticipe très peu ces incendies estivaux qui pourtant reviennent tous les ans et détruisent des hectares de forêt.
La source première des incendies, moi, je vais te la donner, et c'est une lame de fond. C'est pas un bouton on-off, la lame de fond,
c'est l'entretien.
C'est le recul de l'agriculture dans ces zones, c'est l'arrêt du pastoralisme, parce que c'est des zones où on a préféré le loup plutôt que les moutons, et qu'à un moment donné...
Pas autour du Canet en Roussillon, là, si on n'a pas préparé...
Bah écoute, les Pyrénées, on n'est pas loin des Pyrénées, les Pyrénées c'est quand même des zones où il n'y a plus de pastoralisme. En gros, c'est toute la côte méditerranéenne...
Qu'est-ce qu'appelle le pastoralisme ?
Bah c'est le fait
d'avoir des élevages de...
Ouais. Et que ces élevages et ces troupeaux, qui sont plutôt itinérants, qui sont en transhumance, ils entretiennent... le sol, et ils évitent qu'il y ait de l'herbe, de la broussaille qui s'installe, et tout l'arc méditerranéen, c'est un endroit où il y a 100 ans, et ben il y avait des bergers partout.
Il y a Damien qui nous appelle du Puy-de-Dôme, il est maraîcher. Damien, bonjour. Vous vouliez réagir à ce qu'a dit Didier Giraud sur l'eau, et vous n'êtes pas d'accord avec lui, Damien.
Tiens. Non, je suis plutôt peut-être que je fais partie des fameux écolos. Je suis maraîcher et je suis entendu comme quoi il y avait une unanimité des agriculteurs sur le sujet, et c'est loin d'être le cas. Ce qui fait que on manque notamment des eaux de surface, là où je suis d'accord, c'est qu'on a quand même détruit beaucoup les zones humides avec le remembrement à une époque où je n'étais pas encore né même. Mais ces zones humides, maintenant, elles nous seraient utiles. Maintenant, nous garderait l'humidité dans nos sols qui servirait aux prairies, aux arbres, pour protéger les cultures et aussi pour avoir de l'herbe pour les bêtes.
Non mais ce que vous racontez, c'est complètement stupide, Damien. Les zones humides, elles existaient quand on était dans un climat tempéré où jamais, où une fois tous les 30 ans, il y avait une sécheresse. La sécheresse, on va attaquer la troisième de l'année. Donc les zones humides, et là où elles sont préservées, et moi je viens d'un pays de bocage où il y a des zones humides, ben, les zones humides, elles ont disparu la semaine dernière. Hein. Il n'y en a plus. Ouais, hein. Il n'y a plus d'herbe. Il y a des joncs qui sont secs. Hein.
Non mais je suis dans la Limagne. Alors on a eu chaud dans le Puy-de-Dôme.
Non mais bien
l'eau
sûr.
L'eau allait à 1 mètre.
Ah oui.
L'eau allait à 1 mètre 50. L'eau allait à 1 mètre 50 toute l'année, voire plus. Moi j'ai eu des orages inondés mon bâtiment parce que l'eau est remontée sur un gros orage. L'eau est là, pas partout, je suis d'accord, mais.
Mais en même temps, en Limagne, est-ce que vous voulez aider?
Je suis dans des anciens marais. C'était des anciennes mers intérieures, marais. Ouais. Et ça a été drainé il y a 40 ans.
Et donc
et on voit, il y a des gros fossés partout. L'eau à part. Au lieu de rester dans les champs, là, les maïs, ils sont arrosés en plein soleil toute la journée.
Non, mais alors après, on peut critiquer le système qui a consisté dans les années 70 à faire une agriculture plus productive pour donner à bouffer à tout le monde. On peut aussi considérer qu'on va arrêter de produire et importer notre alimentation.
Ce qu'on fait de plus en plus.
Mais c'est ce qu'on fait de plus en plus d'ailleurs. Mais enfin, il y a des nouveaux paramètres qu'il faut prendre en compte. Quand tous les data centers vont se mettre en route, la consommation d'eau, elle est phénoménale pour refroidir les machines. On nous explique qu'il faut de l'énergie basée sur le nucléaire pour refroidir des réacteurs, faut des niveaux d'étiage dans les rivières et dans les fleuves d'ailleurs, qui font que il y a au moins 3 ou 4 centrales qui dans 15 jours seront arrêtées. Ouais. Je vous le dis quoi. Et à un moment donné,
dire
par les zones humides on réglera tout. Moi j'y crois pas.
Damien, merci. C'est vous qui aurez conclu la discussion. On se retrouve demain entre 9h et midi bien sûr. On sera notamment avec François Ruffin pour son face au GG. En attendant, la discussion continue avec Estelle Denis dans Estelle Midi. Bonjour ma chère Estelle.
Salut Alain, salut les GG. On va parler Tour de France. Nous, je ne sais pas si vous avez vu ça, les 40 derniers kilomètres de l'étape du jour entre Granollers et Les Angles. Et bien, elle est interdite au public à la caravane parce qu'il y a des incendies à 50 kilomètres. Ouais. Et donc, ils interdisent ça. Est-ce qu'il fallait plutôt annuler l'étape du jour? Parce qu'en fait, on va voir les cyclistes pédaler avec des images de fumée au loin. Est-ce qu'il fallait annuler l'étape du jour? On en parle avec vous dans un instant. 32-16, vous réagissez bien sûr. On s'intéressera à Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, qui s'oppose à la clim dans les appartements. Est-ce que c'est logique ou choquant? Et puis, est-ce que vous connaissez la tendance du machi-machi?
Hein? Bien sûr. On connaissait le macho-macho, ça c'est Didier Giraud. Oui. Mais
quoi le machi? Alors, le machi-machi, c'est les parents qui s'habillent exactement comme leurs enfants.
Ah, ouais.
Vous savez, vous avez le même caleçon de bain, la maman, elle a la même robe que sa petite fille, etc. Est-ce que pour vous, c'est cool ou ridicule?
Ridicule. Bah, écoutez,
ça se fait de plus en plus. Bah, vous qui avez un garçon en bas âge.
J'avais vu Olivier avec Olivier. Les trucs Naruto.
Bien sûr, moi je m'habille.
Non, mais souvent c'est des caleçons de bain. Alors, c'est très bobo, hein. Bien sûr. Voilà.
Avec le même bob et le petit râteau.
Non, mais t'achètes le même petit caleçon de bain, tu sais, avec un petit motif de crabe et le mot a le même.
Non.
Vous faites pas ça.
Non, pas du tout.
Bah écoutez, c'est très tendance chez les stars. On en parlera.
Je ne suis pas une star comme Joël.
Vous êtes une star, Olivier, et on en parlera donc.
Tu t'habilles comme ta fille.
Aujourd'hui, on en parlera à 13h30, parce qu'on termine à 14h.
Eh oui, Tour de France oblige.
Tour de France oblige, troisième étape, et donc on s'arrête à 14h. Eh bien, il n'y en a pas, parce que le tu préfères est à 14h25.
Vous supprimez l'étape du Tour de France pour faire plus d'antennes.
Non, remarque, ça ne m'aurait pas arrangé. C'est très bien qu'il y ait cette étape,
finalement. Bonne émission avec Estelle au 32-16, et nous, on se retrouve demain 9h.